Le jeu d'échecs est né dans le sous-continent indien vers le 6e siècle de notre ère. Les 32 pièces du jeu représentent donc les différentes composantes de l'armée indienne, c'est-à-dire des éléphants, des chars de guerre, des cavaliers, des piétons. Toute cette armée étant dirigée par un roi accompagné de son conseiller. Le jeu va rapidement se diffuser en Perse et c'est la conquête par les Arabes d'un empire sassanide très affaibli à partir de 638 de notre ère qui va permettre la diffusion du jeu vers l'ouest. Et dans les décennies suivantes, la foudroyante expansion arabe vers le Maghreb et l'Espagne va amener son apparition en Méditerranée occidentale. L'introduction du jeu dans l'Occident chrétien se place nettement plus tard, au cours du Xe siècle de notre ère. Elle s'est logiquement effectuée par des régions qui étaient en contact direct avec le monde musulman, d'une part l'Italie du Sud et l'Empire germanique, qui, je vous rappelle, allait jusqu'à Rome à cette époque-là, et puis d'autre part la Catalogne chrétienne. L'archéologie nous fournit désormais de nombreux jalons qui illustrent sa progression à travers l'Europe. Le jeu d'échecs est présent dès l'an 1000 dans tout l'espace français et germanique. Il semble introduit dans les îles britanniques un peu après, avec la conquête normande. À l'est, il apparaît beaucoup plus progressivement dans tout le monde slave à partir des environs de 1100, puis il gagne la Scandinavie dans la seconde moitié du XIIe siècle. Lorsqu'il fait son apparition dans ces diverses régions d'Europe, le jeu d'échecs va immédiatement exercer une grande fascination, fascination qui ne s'est pas éteinte aujourd'hui, mais c'est un jeu qui est apparu à la fois comme proche et comme lointain. Proche parce que c'est un jeu aristocratique qui reflète d'autres élites guerrières que les élites chrétiennes, mais lointain aussi parce qu'il illustre une armée qui, évidemment, apparaît très exotique aux yeux d'un occidental avec ses éléphants et ses chars de guerre. De plus, le jeu est accompagné d'un lexique, persan et arabe, qui va entraîner un certain nombre d'adaptations linguistiques ou d'incompréhensions linguistiques. Et enfin, le jeu a été introduit en Occident sous deux formes. Des pièces qui sont des pièces réalistes, donc qui sont relativement faciles à identifier, et puis des pièces qui sont des figures fortement schématisées, issues de la prohibition des images pratiquée par certains courants musulmans. Et donc, il devenait beaucoup plus difficile d'identifier un éléphant une fois que celui-ci avait été réduit à un tronc de cône d'où sortaient deux défenses assez approximatives, comme celui que vous voyez ici sur l'image. Et à partir de ces pièces schématiques, les joueurs ont dû aussi multiplier pendant plusieurs siècles des cheminements interprétatifs jusqu'à réinventer en grande partie le jeu. Le destin du char de guerre va nous permettre de détailler l'un des aspects de ces trajectoires quelquefois un peu étranges. La version figurative du char de guerre est attestée par un petit nombre de pièces relativement bien datées des 7e, 9e siècles. Il prend la forme d'un bige avec deux chevaux ou d'un quadrige avec quatre chevaux, parfois monté par deux personnages. Sur la route de la soie, il apparaît entre autres au début du 8e siècle à Afrosiable. Afrosiable, c'est la cité qui a précédé Samarcande. Et il apparaît aussi à une date probablement un peu antérieure, dans l'oasis de Gaochang, qui est aujourd'hui en territoire chinois. En Perse, on dispose d'un exemplaire assez mal daté, qui vient de la région de Nishapur, grande ville de commerce des Sassanides, et un peu plus tard, probablement, on a des exemplaires semi-figuratifs qui ont été produits dans cet espace-là, mais dont le contexte demeure assez souvent incertain. Lors de la diffusion du jeu dans l'espace islamique, le char constitue déjà un archaïsme, puisque les armées indiennes ne l'utilisent plus et qu'il n'entre pas dans les traditions des espaces persans ou arabes. Si elle subsiste tardivement dans quelques jeux du sud de l'Inde ou chez certains peuples d'Asie centrale, la nature réelle de la pièce et même la signification de son nom semble souvent oubliée plus à l'ouest. Les occurrences de chars réalistes sont encore plus rares dès qu'on atteint l'Occident. Le jeu d'échecs dit de Charlemagne, qui était autrefois conservé dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, comprenait trois biges en ivoire d'éléphant. Ce sont des pièces qui ont été produites probablement dans le troisième quart du XIe siècle, dans l'un des ports multiculturels d'Italie du Sud, probablement Amalfi ou Salerne. À côté, vous voyez sur l'image un exemplaire assez différent, un exemplaire en bois de serre, qui a été découvert sur une petite fortification de Saône-et-Loire, qui est lui donc totalement déconnecté de l'espace islamique et qui en plus est extrêmement précoce, hein, puisqu'il a été daté de manière physico-chimique des alentours de l'an 1000. Ces très rares biges réalistes n'apparaissent pas au nord de la Méditerranée après la fin du XIe siècle. On est uniquement sur des pièces précoces. Et si on regarde un petit peu l'iconographie médiévale, les figurations de chars sont d'ailleurs rares à cette époque-là et relativement éloignées des prototypes. Elles relèvent de traditions qui sont surtout des traditions antiquisantes, en illustrant par exemple les différents chars de la Bible, l'intempérance ou la luxure dans la psychomachie de Prudence ou la constellation du cocher, hein, qui fait évidemment aussi apparaître un char. La version schématique, élaborée dans le monde islamique, a connu un succès beaucoup plus large en Occident, puisque j'ai pu recenser au moins une centaine de pièces de ce type datant de l'époque médiévale. Il prend la forme que vous voyez ici, c'est-à-dire un corps plus ou moins parallépipédique, dont le sommet porte une échancrure ou deux pointes qui rappellent la tête des chevaux, avec quelquefois, entre ces deux pointes, quelques excroissances plus courtes. On connaît quelques luxueux prototypes de ces objets, qui sont des prototypes en cristal de roche, produits dans l'Égypte ou l'Irak d'époque fatimide, c'est-à-dire avant le milieu du XIe siècle, et qui sont parvenus très tôt en Europe et qu'on retrouve aujourd'hui encore dans quelques trésors d'église. Mais très vite, on voit se développer des imitations locales dans d'autres matériaux, plus ou moins proches des modèles, comme ces pièces en bois de serre découvertes dans les châteaux d'Andonne et de Boves, respectivement en Charente et dans la Somme, et puis cette pièce en bois, ou en bois de noisetier, découverte dans l'habitat fortifié de Charavine, dans les Alpes, habitat qui est abandonné en 1036. La bibliothèque du monastère suisse d'Einsiedeln concerne un court poème qui a été rédigé dans la seconde moitié du Xe siècle et qui est connu sous le nom de « Vers sur les échecs ». C'est une petite pièce, mais elle est importante parce qu'il s'agit de la plus ancienne occurrence du jeu d'échecs dans un texte occidental. Le poème nous montre qu'on suit des règles qui sont héritées du monde islamique, mais le jeu a déjà subi des adaptations majeures qui concernent en particulier la dénomination des pièces. Et dans ce texte, la sémantique du char primitif apparaît particulièrement fluctuante. Il est d'abord qualifié de bige ou de roc. Je reviendrai sur ce second vocable par la suite. La difficulté à qualifier cette pièce est confirmée par l'apparition de deux autres dénominations. On nous parle de marchio, marquis, ou de magis, peut-être pour magister, un terme qui désigne parfois un maître de cavalerie en latin classique. Dans l'Empire carolingien, puis dans l'Empire germanique, le terme marquis s'applique à un comte revêtu d'un certain prestige, cantonné sur une frontière, mais qui jouit quand même de la proximité royale. Donc un grand courtisan. Dans les vers sur les échecs, il ne qualifie donc pas seulement des chefs militaires juchés sur un char, mais des aristocrates qui sont placés par le roi dans les marges de l'échiquier, aux deux extrémités de l'armée. Les sources italiennes précoces vont emprunter des voies assez proches en qualifiant cette figure du jeu de rector ou de comes, de comte en particulier. Mais le char, comme le marquis ou le comte, n'ont pas connu de postérité en Occident. C'est en croisant le nom arabe du char, ruk, à la forme schématique de la pièce que va s'imposer une qualification plus stable. Par une proximité phonétique, ruk est assimilé à roca, terme latin qui, dès le Xe siècle, désigne des châteaux perchés sur des éperons rocheux, que ce soit en Italie, dans le sud de la France ou en Catalogne. Et nous avons vu que le terme roc connaissait sa première occurrence dans les vers sur les échecs, dans la seconde moitié du Xe siècle. Cette translittération, elle a été facilitée par la forme stylisée de la pièce, qui permet sans trop de difficultés, sans trop d'imagination, d'identifier le volume inférieur à un bâtiment et les pointes à un crénelage. Seules quelques pièces de musée, à l'origine relativement mal connues, sont attribués au XIe, XIIe siècle, figure clairement une fortification, c'est le cas des trois qui sont présentés ici, un château d'origine germanique, avec cette petite tête de personnage qui s'inscrit dans la porte, une tour présentant un décor d'hommes sauvages ou de géants qui se combattent, inspirée des chansons de gestes, et puis une pièce plus tardive qui ressemble plus franchement à une tour qui a été découverte aux Pays-Bas. Le rock schématique d'origine islamique va connaître d'autres réinterprétations dans le temps et dans l'espace occidental. Dans un premier temps, on voit les deux pointes qui divergent progressivement, qui s'écartent, comme on le voit sur la pièce en ivoire d'éléphant de Barghello de Florence, et dans un certain nombre d'éléments iconographiques qui montrent que cette transition se fait entre le XIIe et le début du XIIIe siècle. À partir de cette époque, on rencontre des pointes de plus en plus variées, en forme de crosse très marquées, qui forment de véritables enroulements circulaires et qui vont envahir les derniers siècles du Moyen-Âge. Cette mutation va aboutir dans certains cas à des feuillages beaucoup plus réalistes et dans d'autres cas à des sortes d'ailettes qui remontent à la verticale, comme vous les voyez ici dans l'échiquier du milieu, qui est un échiquier des collections royales françaises, réalisé aux alentours de 1400. À ce stade, les chevaux du char primitif semblent avoir complètement disparu. Et pourtant, on les retrouve dans l'iconographie des échecs, comme dans l'héraldique, à la fin du Moyen-Âge, où on voit quelquefois des rocs représentés avec deux têtes de chevaux, comme celle que vous voyez au milieu de l'image, ici et en bas. Et puis enfin, dans l'espace germanique ou scandinave, on a des interprétations encore plus libres, comme des pièces en forme de papillon, que vous voyez aussi sur cette diapositive. Un autre moyen d'adapter la pièce schématique consiste à la conserver telle qu'elle, mais à la décorer avec des figurations chrétiennes ou chevaleresques. Ça a par exemple été le cas de ce roc en ivoire, produit dans les années 1120, et qui est pourvu d'un décor représentant d'une part la chute d'Adam et Ève, et d'autre part deux cavaliers qui s'affrontent. Dans un passage de son traité encyclopédique « De Natura Rerum », qui a été réédité juste après 1200, l'anglais Alexandre Neckam fournit une définition savante, très divergente pour le roc. Le roc, nous dit-il, symbolise un soldat légèrement équipé qui était originellement appelé Janus Biceps et comportait en conséquence deux têtes. Et au début du XIIe siècle déjà, un autre poème anglais, le poème de Winchester, décrivait la figure comme un bifrons rocus. Quelques pièces des XIIe-XIIIe siècles peuvent transcrire ces descriptions avec, entre autres, cette mauvaise photo, mais la pièce a disparu, d'une pièce représentant deux personnages armés qui peuplent des rinceaux. Le roc apparaît aussi sous une forme assez proche, sous la forme de deux cavaliers, dans de nombreux exemplaires d'un ouvrage qui a été un grand succès de la fin du Moyen-Âge, « Le jeu des échecs moralisés » de l'Italien Jacques de Cessol. Assez logiquement, la figure symbolisant le château occidental n'a pas non plus connu un grand succès dans des régions d'Europe où ce type d'architecture n'était pas encore complètement en usage. Ce sont aussi celles où les échecs se sont imposés le plus tardivement. Et au cours du XIIe siècle, on voit ainsi apparaître dans deux sites biélorusses des pièces d'échecs sous la forme d'embarcations avec une coque en forme de croissant disposées sur un pied et qui portent des archers et un pilote. Ces figurations correspondent à des bateaux à proue et poupe surélevées qui sont décrits dans les sources russes de cette époque sous le nom de Nazad, mais c'est plutôt un vocable littéraire qui s'est imposé pour dénommer la pièce d'échecs, ladia, c'est-à-dire bateau. Contrairement à l'évolution reconnue plus à l'ouest, ce n'est pas le nom arabe de la pièce qui a guidé sa réinterprétation, c'est plutôt la forme générale de sa version schématique, rapprochée d'un mode de combat qui avait plus de sens dans l'espace slave et marque l'importance primordiale des grands fleuves ou de la mer Caspienne et de la mer Noire dans le développement de la Russie médiévale. Cette réinterprétation inattendue du char a à son tour suscité de nombreuses formes schématiques. Je vous en montre quelques variantes sans entrer dans le détail. Les pièces les plus simples finissent d'ailleurs par revenir à une forme qui est très proche de la forme schématique de l'espace islamique. La base disparaît et le sommet se limite à une échancrure avec ou deux appendices sinueux. Ces diverses variantes ne dessinent d'ailleurs pas une évolution linéaire qui irait du figuratif ou très simple, puisque toutes ces formes coexistent à partir de la fin du XIIIe siècle. Si on se tourne maintenant vers la Scandinavie, et en particulier vers un dépôt extrêmement célèbre, le dépôt de pièces d'échecs de l'île de Lewis, au nord de l'Écosse, on trouve là toute une série de pièces qui ont été probablement produites dans l'archevêché norvégien de Trondheim, aux alentours de 1200. Dans cette collection de 78 figures en ivoire de morse ou de cachalot, on ne rencontre pas de tours. En revanche, on y rencontre deux types de fantassins qui viennent les remplacer. La première catégorie a donné lieu à une abondante littérature. Il s'agit de quatre guerriers aux yeux exorbités et qui mordent à belles dents le sommet de leur bouclier. Ces étranges représentations ont été identifiées comme des guerriers d'élite scandinave, nommés Berserkir, expression assez imparfaitement rendue en français par la formule « guerrier fauve ». L'auteur islandais de l'histoire des rois de Norvège, Snorri, décrit au début du XIIIe siècle l'étrange comportement de ces hommes qui allaient au combat ou participaient à des parades martiales avec d'impressionnantes manifestations de sauvagerie. Dans la saga des Gils, un personnage, saisi par la fureur des guerriers fauves au moment de rejoindre l'enclos d'un duel, se met à hurler affreusement et à mordre son bouclier. Pourtant, ces guerriers fauves appartiennent déjà au passé lorsque les auteurs des sagas couchent par écrit les traditions nordiques. L'histoire de Saint Olaf leur attribue encore un rôle décisif dans les années 1030, mais il s'agit de l'ultime mention de ces combattants dont le christianisme va bientôt amener la disparition. La seconde catégorie comprend 8 fantassins barbus avec le même matériel militaire, casque, épée, bouclier en forme d'écu, et qui sont qualifiés de gardiens, warders, par les chercheurs anglais. 3 autres exemplaires de ce type, islandais, suédois, danois, peuvent leur être comparés. Aucune de ces variantes n'aura non plus de postérité. Il y a beaucoup de branches mortes dans cet arbre généalogique. Et quand les sources scandinaves commencent un siècle plus tard à fournir un vocabulaire du jeu, les tours sont appelées des rocs, comme dans les pays d'Europe occidentale. Pourtant, sur les rives de la Baltique, les formes schématiques qui se diffusent à ce moment-là ont l'air d'être plus empruntées aux bateaux slaves qu'aux rocs occidentaux. Tous ces tâtonnements vont s'interrompre assez brutalement à la fin du Moyen-Âge en raison d'une évolution technique somme toute assez modeste. On a pris de plus en plus l'habitude de réaliser les pièces d'échecs à l'aide d'un tour, de les tourner, et désormais le roc s'inscrit dans un cylindre mouluré relativement simple dont le sommet peut supporter un crénelage. C'est de ce type que dérive la forme conventionnelle actuelle qui apparaît au plus tard dans la seconde moitié du XVe siècle. L'iconographie italienne de la fin du XVe siècle figure quelques autres variantes, dont des bases moulurées qui supportent des demi-sphères ou des corolles, une sorte de champignons, comme vous voyez ici sur l'image. Aucun élément matériel ne permet de confirmer leur existence, mais les pièces tournées étant le plus souvent confectionnées en bois, leur conservation demeure assez exceptionnelle. J'achève ici le panorama sans doute un peu long, mais qui nous a conduit d'un char très antiquisant à des relectures parfois inattendues qui sont adaptées à chacune des cultures européennes. Vous échapperez aux nombreuses interprétations extrême orientales dans lesquelles apparaissent par exemple des chameaux ou des oiseaux. Dans les langues européennes actuelles, cette pièce du jeu d'échecs est partout appelée roc ou tour. La langue française a privilégié la tour, mais le vocabulaire des échecs a conservé un coup appelé roc, qui consiste à déplacer en même temps le roi et la tour de leur case primitive. L'histoire de jeu d'échecs est évidemment un modeste sujet d'étude, mais il constitue malgré tout un très bon observatoire pour comprendre les modalités de transfert culturel. Comment emprunte-t-on un trait extrêmement exotique à d'autres cultures et qu'en fait-on ? Réinterpréter les différents aspects de son cheminement depuis l'Orient permet en effet de déconstruire des adaptations qui n'ont pas été uniformes dans le temps et dans l'espace et qui ont atteint successivement différents aspects du jeu que les Occidentaux ont souhaité adapter à la fois à leur pratique et à leur imaginaire. Je n'ai abordé ici que la forme et la dénomination de la tour, mais les autres pièces du jeu ont également connu des tâtonnements du même type lorsque le vizir, le conseiller du roi, est devenu une reine ou lorsque l'éléphant de guerre est devenu, entre autres, un évêque ou un fou. L'Occident a également mis en œuvre d'autres adaptations, celle des couleurs qui marquent les deux camps et qui marquent les cases de l'échiquier, le code des couleurs orientales n'ayant pas grand sens dans les mentalités européennes. Celle des matériaux aussi, puisque l'ivoire de morse ou le bois de serre ne sont pas attachés à la même symbolique que l'ivoire d'éléphant ou le cristal de roche. Enfin, la réinvention occidentale a touché les règles du jeu afin de mettre en œuvre, dans les dernières décennies du Moyen-Âge, le jeu rapide tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette dernière mutation n'atteint pas la tour qui, comme à l'origine, continue à se déplacer horizontalement et verticalement d'un nombre illimité de cases. Mais si elle constitua jusqu'à la fin du XVe siècle la pièce la plus forte des échecs, la tour a été alors éclipsée par les nouvelles possibilités qu'on a accordées à la reine en féminisant le jeu, reine qui devient l'élément central d'un jeu qui désormais ressemblait plus à une cour royale qu'à une armée. Je vous remercie de votre attention.